Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans une source vraiment passionnante. Le bulletin numéro 72 du Cartoclub Aveyronnais. Ça date de mai 2019. Et franchement, c'est plus qu'un simple bulletin, hein. C'est une véritable étude sur un lieu emblématique de l'Aveyron, le Royal Aubrac. Alors notre but, ça va être de comprendre ce lieu, son histoire, à travers ce document. On va suivre un peu le fil des anecdotes, de l'histoire locale. Et puis, il y a les cartes postales anciennes. C'est un peu le dada du Cartoclub, non? Ça va nous guider pour voir comment ce bâtiment a traversé le temps, de l'idée du sanatorium jusqu'à aujourd'hui.
Oui, c'est un document vraiment riche. Et il faut souligner le travail de recherche derrière tout ça. D'ailleurs, le bulletin met en avant Monique Duguay-Boyer. C'est elle la maître d'œuvre de cette étude sur le Royal Aubrac. Un travail salué pour sa qualité, l'utilisation de documents inédits aussi. Et puis il y a Guy Mazard, le rédacteur en chef, qui a conçu la maquette. C'est lui qui rend tout ça si agréable à lire, si clair. Un travail d'équipe essentiel.
Tout à fait. Alors, on est parti pour un voyage dans le temps. Ce Royal Aubrac, c'est pas juste des murs, hein, c'est un témoin. Un témoin des changements médicaux, sociaux, économiques du XXe siècle. Allez, on plonge dans cette histoire mouvementée. Alors, pour commencer, situons un peu les choses. L'Aubrac, ce plateau immense, sauvage, c'est à cheval sur trois départements, hein, Lozère, Cantal, Aveyron. Un lieu fort avec une histoire ancienne. On pense à la Croix des Trois Évêques, bien sûr. Et puis, cette tradition d'accueil des pèlerins de Saint-Jacques, avec l'hôpital monastère, la domérie d'Aubrac, fondée au Moyen Âge. Et c'est là, sur cette terre un peu rude, qu'à la fin du XIXe siècle, une idée un peu folle émerge. Construire un sanatorium moderne.
Une idée portée par un homme, le docteur Camille Sonal, un médecin aveyronnais qui exerçait à Paris. Il était très préoccupé par la tuberculose, la phtusie, comme on disait, un vrai fléau à l'époque. Et il était fasciné par ce qui se faisait ailleurs, comme à Davos, en Suisse, ces sanatoriums en altitude, et aussi par les travaux du docteur Petit, à Ormesson, près de Paris. Pour Sonal, l'Aubrac, c'était évident. Il y avait l'altitude, plus de 1300 mètres, donc un air pur, loin de la pollution. Et puis, il y avait cette ressource locale un peu mythique, le petit lait, le gaspo. On lui prêtait plein de vertus. Et l'idée, c'était vraiment d'allier la nature et la médecine.
D'accord. Mais ça ne s'est pas fait en un jour, j'imagine. Le bulletin raconte les débuts.
Oui, tout à fait. En 1895, Sonal commence petit. Il loue une maison près de la tour d'Aubrac pour ses premiers patients. Et il ne se fie pas qu'à son intuition, hein. Il fait faire des études climatiques sérieuses pour prouver les bienfaits du site. Il va même présenter ses travaux à l'Académie de médecine en 1896. Il parle d'asepsie pulmonaire, d'aérothérapie. C'était assez novateur comme concept. L'air pur qui nettoie les poumons, en quelque sorte.
Impressionnant. Mais il y a eu des accrocs, non? Le bulletin parle d'une affaire financière.
Ah oui, l'affaire. Un épisode un peu trouble au début. Un abbé Garnier et un ex-banquier, Lesgrain, ils ont apparemment tenté d'écarter Sonal et de monter une opération financière un peu douteuse. Ça a freiné le projet, créé des remous, c'est sûr. Mais Sonal, lui, il a tenu bon, sa détermination était là.
Et donc, après ces péripéties, le grand bâtiment sort de terre?
Exactement. Entre 1899 et 1901. C'est le fruit de la collaboration entre Sonal et l'architecte départemental, Henri Ponce. Ils choisissent bien le site, près du village, plein sud, à l'abri des vents. Et l'architecture est pensée pour la cure. Imaginez, 70 mètres de façade, d'immenses galeries vitrées au rez-de-chaussée pour les bains de soleil, le fameux solarium, des chambres très aérées, lumineuses, et puis le confort moderne, ascenseur, un luxe. Électricité partout, chauffage central.
Ah oui, quand même. C'était à la pointe pour l'époque.
Carrément. On apprend même qu'ils ont utilisé un chalet suisse de l'exposition universelle de 1900 comme annexe temporaire. Ça, c'est cocasse, non?
Plutôt original. Et l'objectif restait bien le soin des tuberculeux.
Oui, au départ, c'était ça. Le bulletin donne des chiffres sur la consommation allée. 40 000 œufs par an, des centaines de bêtes de boucherie, ça montre l'ampleur de l'activité. Mais cette arrivée massive, ça n'a pas plu à tout le monde sur place. Des tensions sont apparues, peut-être à cause de la hausse des prix, mais sans doute aussi une certaine méfiance, la peur de la contagion.
Je vois. Une ambition qui se heurte aux réalités locales. Et pour Sonal, l'aventure s'arrête là, en fait.
Assez brutalement, oui. En 1909, il est poussé à la démission par la société qui gérait l'établissement.
Pourquoi ? Qu'est-ce que dit le bulletin ?
Il y a plusieurs pistes, basées notamment sur des lettres de Sonal lui-même. Un conflit de vision, peut-être, soins contre rentabilité. On lui reprochait aussi le luxe de l'établissement. Et puis, cette hostilité locale qui persistait, la peur de la maladie, sans doute.
Il devait être sacrément amer.
Ah oui, ne s'en cache pas dans ses écrits, on sent l'incompréhension. Et le changement d'orientation, il est rapide. Dès 1910, le nouveau règlement intérieur est très clair, on vise une clientèle plus modeste, et surtout on exclut les malades contagieux. C'est une rupture totale avec le projet initial de Sanal.
Le rêve du grand sanatorium populaire s'envole.
C'est ça. Et en 1911, c'est la vente. L'acheteur, c'est la Société fermière des eaux de Vichy, une grosse société. Ils rebaptisent l'endroit Hôtel Royal. Ça devient une sorte d'annexe de montagne de leur palace de Vichy, l'Astoria. On passe à autre chose, le tourisme thermal et climatique.
D'accord. Et c'est là qu'arrivent les fameuses cures.
Exactement. Deux types de cures vont faire la réputation de l'Hôtel Royal. D'abord, les cures de petit lait. Le bulletin rappelle que c'est une pratique très ancienne, ça remonte à Hippocrate. Sur l'Aubrac, ça devient un rituel d'été. Des personnalités comme Don Rinsaille, l'abbé Deltour venaient. Mais c'était aussi très convivial. On allait de Mazuc en Mazuc, les burons quoi, pour boire le petit lait frais, le gaspo.
Ça devait être sympa.
Oui, il y a même des cartes postales humoristiques qui montrent cette ambiance un peu festive. Et l'autre pilier, c'était les cures d'air et de soleil. Là, l'hôtel utilise à fond l'architecture de Sanal et Ponce. Le solarium, les balcons, on vante l'altitude, le grand air, surtout pour les enfants, les convalescents. La dimension santé est toujours là, mais dans une offre plus large, plus touristique.
Mais pour attirer cette clientèle, il fallait pouvoir venir jusqu'à Aubrac. C'était pas simple à l'époque, j'imagine.
Non, c'était un défi. Le bulletin explique bien ça. Le train était crucial. Les lignes du Midi, du Paris-Orléans, elles desservaient Nasbinal, Saint-Chili, Aumont-Aubrac. Mais ces gares restaient quand même assez loin du plateau.
Il fallait donc organiser la fin du trajet.
Tout à fait. Les cartes postales montrent des voitures limousines ou la voiture du Royal Hotel qui attendait les voyageurs à la gare. Plus tard, il y a eu l'autobus Soyer. Les publicités disaient « faire vite ». Ça reliait Aumont, Aubrac, Laguiole et Spalion. Le signe des temps modernes.
Et l'hiver, avec la neige.
Ah, l'hiver, un autre monde. Les routes étaient souvent coupées. Mais ils s'adaptaient. Il y a une photo incroyable dans le bulletin. Une autochénie qu'égraisse, ces véhicules Citroën, Mirou, Michny, qui tirent une énorme luge devant l'hôtel enneigé.
Avec des skieurs autour.
Ah oui, ça devait être quelque chose.
Ça montre bien la volonté de rester ouvert malgré tout.
Exactement. Et cet essor de l'hôtel Royal, ça a attiré tout le village d'Aubrac. D'autres hôtels ont ouvert ou se sont agrandis. Le bulletin cite l'hôtel d'Aubrac, l'hôtel moderne, l'hôtel gros, l'hôtel de Paris. Une vraie petite station qui prend forme. Et le Touring Club de France, le TCF, a joué un rôle important. Leur guide référençait ces hôtels, ça leur donnait une visibilité.
Et c'est là que les cartes postales du Cartoclub sont précieuses, j'imagine.
Ah oui, bien. Elles nous donnent des détails savoureux. On voit un sanglier empaillé à l'entrée de l'hôtel d'Aubrac. On voit la façade agrandie de l'hôtel moderne. La plaque émaillée du TCF sur l'hôtel gros. Le bulletin parle aussi des photos de la collection d'Yves Cazé-Jouanne, d'ailleurs. Il a écrit un article spécifique dans ce numéro. Ces photos montrent l'entrée de l'hôtel plus ancienne, le personnel qui pose, des clients qui jouent au jeu des ciseaux. Ça redonne vie à cette époque.
Super intéressant. Mais cette période faste de l'hôtel cure, elle ne dure pas éternellement, j'imagine.
Non, le XXe siècle avance et le Royal Aubrac va encore changer de visage plusieurs fois. Le bulletin retrace bien tout ça. D'abord, pendant la Première Guerre mondiale, il redevient un lieu de soins pour les soldats convalescents. Un bref retour aux sources, en quelque sorte.
Puis
en 1937, il est racheté par un certain Solignac. Il s'appelle alors Royal Hôtel d'Aubrac. Ensuite, un changement majeur. En 1958, des sœurs d'une congrégation de Narbonne arrivent. Elles en font un centre d'accueil pour familles. Et c'est à ce moment-là, d'après le bulletin, qu'est installée près du bâtiment cette grande statue de la Vierge dont on reparlera.
D'accord. Et après les sœurs?
Nouvelle étape en 1966, c'est l'UNIM, une fédération de mutuelles, qui reprend, sous l'impulsion du docteur Aérignac. C'est le début du développement de la station de ski d'Aubrac. Et c'est l'âge d'or des classes de neige. Des milliers de gamins vont découvrir la montagne ici.
Ah oui, les classes de neige, toute une époque.
Et puis, en 1970, c'est la FOL, la Fédération des œuvres laïques, qui achète
là, c'est peut-être l'apogée du Royal Aubrac comme centre de vacances polyvalent. Le bulletin souligne le rôle de Michel Molera, qui était président de l'AFO Aveyron. L'offre explose, colosse, classe verte, classe de neige, bien sûr, mais on ajoute aussi un golf et plus tard une patinoire qui va devenir assez emblématique. Les cartes postales de cette période montrent un lieu plein de vie.
Une vraie ruche d'activité. Mais ça n'a pas duré.
Malheureusement, non. Le bulletin décrit ensuite le déclin. La FOL rencontre des difficultés financières. Les coûts d'entretien d'un tel paquebot et surtout les mises aux normes de sécurité deviennent énormes. Une étude conclut même que ce n'est plus viable économiquement.
La dure réalité.
Oui. La fermeture est décidée en 2005. Le bulletin parle d'un crève-cœur. Le bâtiment est vendu en 2007. Un nouveau propriétaire, René Cousty, arrive en 2008 avec un projet, un centre de prévention du burn-out, des activités sportives. Ça semblait intéressant, mais d'après le bulletin qui cite la presse de 2013, ça n'a pas abouti.
Dommage. Et les collectivités locales, le parc naturel régional?
Ils ont manifesté de l'intérêt, mais à la date du bulletin en 2019, rien de concret n'avait été trouvé pour assurer un avenir pérenne. Le géant s'est rendormi.
C'est là qu'intervient l'histoire de la statue de la Vierge, racontée par Yves Cassejuen dans ce bulletin. C'est fou comment son histoire reflète celle du Royal Aubrac.
Ah oui, c'est une histoire incroyable. Installée par les sœurs dans les années 60, donc un symbole religieux fort, mais ensuite le site est géré par la FOL, une organisation laïque. Ça crée une situation un peu particulière.
Et Cassejuen raconte quoi? Des péripéties?
Oui, la statue aurait été vandalisée, peinte en rouge, selon la rumeur, et puis carrément déracinée. Elle est sauvée par une dame du coin, très pieuse, Germaine, qui l'installe dans son champ. Plus tard, il y aurait eu une sorte de conflit symbolique avec une autre statue de Vierge installée pas loin par les fraternités monastiques de Jérusalem. Du coup, elle est déplacée temporairement dans l'église d'Aubrac.
Compliqué.
Et finalement, elle retourne dans le champ de Germaine. Yves Cassejuen conclut que ce parcours mouvementé, c'est un peu le reflet de l'histoire complexe, parfois conflictuelle, d'Aubrac et du Royal. Aujourd'hui, elle est toujours là, on la voit depuis le chemin de Saint-Jacques, mais elle est abîmée par le temps, un peu seule.
Quelle histoire. Ça résume bien les différentes vies du lieu.
Absolument. Quand on regarde tout le parcours, c'est né d'un rêve de médecin à la fin du 19e. C'est devenu un hôtel chic, puis un grand centre de vacances populaire. Et maintenant, l'incertitude. C'est fou comme son histoire raconte l'évolution de la médecine, du tourisme, les défis des territoires ruraux, la question du patrimoine. C'est un siècle d'histoire dans un seul bâtiment.
Et on peut revivre tout ça grâce au travail minutieux du Cartoclub Aveyronnais. Il faut vraiment saluer ses passionnés. Monique Dugueux-Boyer pour la recherche de fonds, Guy Mazard pour la mise en forme, Yves Cassejuen pour son enquête sur la statue. Ils font vivre cette mémoire locale, souvent à travers ces petites cartes postales qui disent tant de choses.
Et ça nous amène à une réflexion pour finir peut-être. Qu'est-ce qu'on fait de ces géants endormis? Comment imaginer un avenir pour des bâtiments comme le Royal Aubrac, si chargés d'histoire, de souvenirs, mais si compliqués à gérer aujourd'hui? Comment on concilie la mémoire, le patrimoine, et puis les réalités économiques, les nouveaux projets? Surtout dans des territoires comme l'Aubrac, qui essayent de se réinventer, avec le parc naturel régional notamment. C'est la question des traces qu'on garde et de l'avenir qu'on veut écrire pour ces lieux. Une question ouverte, finalement.